Je voulais enfin insister sur cet aspect de l'auto-érotisme infantile qui prend en charge, dirais-je, ou qui incarne en lui aussi, par exemple, la tendance cruelle. Ce n'est pas seulement la pulsion sexuelle d'amour, dirais-je, qui est capable d'être sublimée dans l'œuvre, n'est-ce pas, mais qu'il y a aussi, et je crois que dans une composante extrêmement forte dans toutes les créateurs, l'empreinte, dirais-je, de la cruauté, de l'empreinte, on peut aussi parler de la pulsion des morts, enfin, ce sont des notions, des concepts qu'on débat beaucoup entre nous, psychanalystes, nous avons peut-être des visions différentes, mais en tout cas, de cette intrication du sexuel, ou dans le sexuel, de la vie et de la mort, d'Eros et de Thanatos, c'est de là, de ce polémos, dirais-je, de la pulsion elle-même, qui naît quelque chose qui est de l'ordre de l'art, n'est-ce pas? C'est-à-dire les choses les plus élevées, disait Freud, sont toujours très proches des choses très basses, disons, n'est-ce pas? Et là, bon, je trouve que c'est un bel exemple de ce travail dans cette mémoire obscure, sans souvenir, de quelque chose de l'expérience de l'infantile, qui aboutit, dans le cas d'Espinola, à une très belle œuvre, un très beau récit.
Vous donnez aussi l'exemple de Picasso.
Oui.
Et vous avez vu, je crois
Oui.
que comme beaucoup d'entre nous ont vu cette exposition de Picasso, des dessins érotiques de Picasso. Vous y avez vu à l'œuvre la pulsion infantile de Picasso dans ces dessins érotiques.
Oui, c'était bon. Je travaillais justement sur ce texte quand j'ai vu cette exposition, et là, c'était tellement évident, n'est-ce pas, cet aspect pulsionnel, du visuel, érotique. Picasso le dit, cet œil en érection, n'est-ce pas, qui capte, et qui crée en même temps, qui déforme, n'est-ce pas, cet œil qui mord, cet œil qui ronge, n'est-ce pas, c'est une visualité qui est pleine justement en même temps de l'amour de l'objet, mais en même temps aussi de la cruauté, n'est-ce pas, qui déforme l'objet pour obtenir, bon, son plaisir, l'érotisme de Picasso, n'est-ce pas, la peinture, la création artistique.
Elle est proche de l'infantile.
Ah, je pense que tout à fait. Je crois que on lui avait posé la question à Picasso, entre ce qu'il y a de différence entre la sexualité et la création artistique. Il avait dit aucune.
Paul-Laurent Assoun.
Oui, ce que disait Picasso, la création et la sexualité, c'est la même chose. Freud ne l'aurait pas dit. Voilà. C'est-à-dire, d'une certaine manière, toute la psychanalyse tend à montrer que le sexuel est d'autant plus important qu'il a affaire avec autre chose que le sexuel. C'est ça le paradoxe. Le pansexualisme est plutôt antipsychanalytique. Je veux dire, c'est une manière brutale de dire tout est sexuel. Non. Bon, il faudra en parler un peu longuement, mais simplement, il y a toujours quelque chose qui s'oppose au sexuel. C'est par exemple toutes les pulsions d'autoconservation qui fait que le sexuel lui-même est menaçant. C'est le rapport entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire entre l'Eros et ce qui n'est pas l'Eros, et qui travaille en même temps dans l'Eros. Hein. Et enfin, il y a toute la question de la sublimation, c'est-à-dire que l'art renvoie à cette dimension de la sublimation qui suppose que la pulsion renonce à son but sexuel. Je crois qu'on ne peut pas parler trop longuement de la sublimation, mais c'est justement en cela qu'elle est sexuelle, c'est-à-dire qu'elle fournit si je peux dire, sa puissance sexuelle, tout le front pulsionnel est sexuel, mais peut se porter sur des objets extrêmement loin de la satisfaction pulsionnelle elle-même, et par là même de la fonction sexuelle.
Est-ce que vous ne diriez pas que Picasso échappe de ce point de vue au propos freudien, puisque lui, il a cette toute puissance infantile qui est active, qui est féconde?
Oui, alors là, il faudrait vraiment.
Dans le personnage Picasso, c'est quand même très présent. Paul-Laurent Assoun.
Oui, peut-être que l'opération Picasso, comme de bien d'autres artistes, c'est de contaminer l'autre, c'est-à-dire le spectateur, avec sa propre angoisse. Voilà. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, l'effroi n'est pas directement traité, si je peux dire, au plan psychique. Il passe dans l'œuvre. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est un autre destin que le destin névrotique. Je crois qu'il n'y aurait pas grand intérêt à faire un diagnostic sur Picasso. Hein, enfin, ce serait peut-être intéressant en soi, mais c'est, il a choisi l'œuvre pour faire l'économie du symptôme, si je peux dire.
Michel Grimaski.
Oui, je voulais juste embrayer sur ce petit bout de discussion sur Picasso. Effectivement, c'est pas Picasso érotique, c'est Picasso auto-érotique.
Alors, j'aimerais bien, Marie Desplechin, que vous nous semiez votre petit grain de pollen qui s'est fécondé en voyant...
En revoyant
Anna et ses sœurs.
En le revoyant dans un cadre particulier, puisque c'est un ciné-club qui est organisé par deux psychiatres qui choisissent des films et qui organisent un débat à la fin de la projection. Et en l'occurrence, c'était Anna et ses sœurs que j'avais vu plusieurs fois, qui était un film que je pensais bien connaître. Et dans ce cadre-là, il y avait une espèce de relecture qui s'est faite d'elle-même et qui a donné l'occasion de ce texte et qui est sur le rôle d'Anna à l'intérieur de sa famille. Parce que dans le film, on se rend compte assez rapidement que tout se passe en famille et que tout passe par le personnage d'Anna qui va personnellement se charger de trouver des maris pour ses sœurs et des maris aptes à donner des enfants à ses sœurs. Elle, qui par ailleurs n'en a pas. Alors bon, je ne vais pas raconter tout le développement que j'expose dans ce petit texte.
Vous avez pensé à Françoise Héritier.
Alors voilà, ça m'est venu parce que j'avais eu l'occasion d'interviewer il y a quelques années Françoise Héritier sur la notion de l'inceste du deuxième type, qui est un inceste qui est sinon condamné, du moins géré dans la plupart des cultures et qui interdit que deux femmes qui sont d'un même sang aient des relations sexuelles avec le même homme, car quelque chose passe de l'une à l'autre. L'homme transmet de l'une à l'autre un fluide, qui est un fluide qui les met tous en danger. Et en général, quand ça se passe dans le cadre, par exemple, du Lévira, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié et qui est très maîtrisé. Et dans ce film, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que sans jamais que ce soit dit, c'est Anna, et c'est en fait un homme qu'elle va pouvoir passer à l'une de ses sœurs, et cet homme va pouvoir lui faire un enfant. Et le film est organisé dans une construction où tout se passe entre des fêtes de Thanksgiving, où toute la famille est réunie, et on les voit de fête en fête évoluer, et les uns se reparier avec les autres. Et je me faisais la considération que cet inceste du deuxième type, la question n'est pas du reproche, mais de ce que Françoise Héritier remarquait sur le cas Woody Allen, quand il a eu cette histoire extrêmement intéressante, avec la fille adoptive de Mia Farrow, avec laquelle il est parti, et d'ailleurs à laquelle, je crois, il a fait un enfant. Il y avait une correspondance éclatante en voyant ce film entre, je ne sais pas si c'est... l'anecdote, disons, de la vie de l'artiste qui avait composé ce film, qui, d'une certaine façon, et sans doute sans qu'il le pense, puisque de toute façon c'est bien antérieur, se répandait. Donc voilà, et là c'est assez joli aussi de pouvoir constater que ce n'est pas un diagnostic, c'est un film qui est extrêmement intéressant parce que il le réalise dans le film. Donc voilà, tout se passe en famille. En fait, la fin de l'article résumé, ce qui était un petit peu le point de départ, c'était que chez Woody Allen, on ne se marie pas pour créer une famille, mais on crée une famille pour pouvoir s'y marier. Et ce qui me semblait aussi, alors bon, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans l'article, mais assez intéressant, à la mesure où c'était très contemporain avec toutes ces séries qu'on voit à la télévision, où tout se passe dans des intérieurs clos et extrêmement familiaux, dans lesquels des personnages qui sont juste encore très adolescents cherchent des gens pour s'y marier.
Michel Grimaski.
Ça m'a, en lisant son texte, j'ai été très surpris. Je n'avais jamais pensé, dans le plaisir même que je prenais à voir et à revoir le film de Woody Allen, Anna et ses sœurs, que ce pût être quelque chose de cet ordre incestueux du deuxième type. Mais plus on y pense et plus c'est présent, plus l'inceste organise le film en permanence. J'avais jamais pensé que c'était cette sorte de plaisir-là que peut-être, que l'enfant en moi prenait à voir ce film. Et au fond, j'en veux un peu à Marie Desplechin parce que je crois que je ne verrai plus ce film maintenant.
Avec la même candeur ?
Non, je ne le verrai plus. Je veux garder le film que j'ai vu avant d'avoir lu son article.
Alors, on va passer à maintenant l'article de Giorgio Vasalli, et il nous reste peu de temps pour en parler, il nous reste quelques minutes, mais vous pouvez nous expliquer en quoi cette controverse est importante, puisque elle nous resitue le travail de la psychanalyse dans sa méthode.
Oui, je vais faire un tout petit peu marche arrière, si vous le permettez, puisque controverse est donc une des nouvelles rubriques que nous introduisons dans cette revue Pensée rêvée. Il y en a d'autres, il y a un glossaire, qui est un glossaire toujours sérieux, mais un peu d'humeur, qui cette fois-ci est fait par Paul Denis.
Oui, qui donne une définition très spéciale du féminisme.
De la femme, la femme, homme par définition.
Oui.
Le pouvoir d'avoir physiquement un enfant dans l'homme lui est injustement réservé. Je trouve la définition très jolie. Donc il y a un glossaire, il y a controverse dont je vais dire un mot, il y a les pollens que Marie Desplechin
vient dégrainer
et dirige, et il y a la libre chronique de J.B. Pontalis qui apparaît dans chaque numéro. Alors controverse, de quoi s'agit-il cette fois-ci ? Eh bien, Giovanni Vasalli, qui est un psychanalyste zurichois, a fait une étude tout à fait intéressante, très, très consciencieuse, éventuellement très lente. Quand il trouve que ça n'est pas clair, il revient sur ce qu'il a dit, et c'est une écriture assez admirable. Une étude sur le fait que aujourd'hui l'Association internationale de psychanalyse, qui veut toujours plus de respectabilité, donc de démontrable, donc de scientifique, donc de données objectivables, entraîne peu à peu la psychanalyse à se séparer du principe même inventé par Freud, qui est un principe conjectural. Et donc Vasalli montre ça en repartant de la techné aristotélicienne, de la technique grecque. Je crois que ce que j'ai de mieux à faire est de vous lire deux brefs passages. L'un concernant la techné aristotélicienne et l'autre concernant le principe freudien de la psychanalyse.
Si vous voulez.
Donc, la techné chez Aristote, écrit Vasalli, est le nom d'un artisanat qui s'appelait à l'époque poiesis, où Edmundo Gomez Mango va se reconnaître entièrement dans son amour pour la poiesis. Un artisanat qui accomplit son but en produisant un ouvrage. Lorsque quelque chose est ainsi produit, l'ouvrage qui en résulte n'existe ni en soi ni par nécessité, c'est-à-dire n'est pas déjà donné. C'est une chose qui ne peut être comprise que lorsqu'elle se fait jour et qui est prise dans un processus de devenir. L'objet de la techné est ainsi le probable au sens du possible et peut exister comme il peut fort bien ne pas exister. Il n'y a donc aucune connaissance absolue et assurée à son sujet, mais plutôt une connaissance qui repose sur la supposition.
Et c'est ça la psychanalyse.
Et c'est ça la méthode psychanalytique telle que Freud l'a conçue lorsque, par exemple, Freud écrit que nous travaillons en déduisant, en devinant et en construisant. Entre la techné aristotélicienne et le principe freudien de l'erraten, du fait de deviner, il y a une ligne directe que les psychanalystes sont en train d'oublier.
Eh bien, cette controverse joue son rôle, qui est de nous inciter à réfléchir. Je voudrais, avant de terminer cette émission, continuer à vous suggérer quelques revues. La revue Hérodote, qui est consacrée à la Russie 10 ans après. Il y a notamment un bilan de la décennie 1991-2001 à Moscou, un article sur la thérapie et les chocs, 10 ans de transformation économique en Russie, et les lettres, les sciences et les arts dans la Russie d'aujourd'hui, 3 articles que je signale. Il y a la revue Acte avec un numéro consacré à la science, avec encore un article de Pierre Bourdieu, donc qui a été rédigé avant sa mort en fin janvier. Et il y a cette revue qui est une revue d'inspiration libérale, la revue Commentaire, qui est une revue de très haut niveau et qui nous propose une réflexion sur les réformes et la politique en France, un dossier qui n'est pas si fréquent dans cette revue et qui peut nous inciter aussi à la réflexion.